Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 18h30 en temps universel, le monde aujourd'hui, édition du mercredi, du vendredi 15 septembre 2015. John Lydon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, Togo, l'Assemblée nationale se penche sur la réforme constitutionnelle. Elle a commencé ce jeudi l'examen d'un projet censé introduire la limitation des mandats présidentiels. Au Tchad, le gouvernement réagit à la publication du rapport d'Amnesty International. Nous écouterons le ministre Mahamad Hassan dans ce journal. Alerte en RCA où plus de 40 000 personnes sont menacées de famine dans la localité de Bria. Pluie de condamnations dans le monde après un nouveau tir de missiles balistiques de la Corée du Nord, malgré l'adoption des sanctions. Et puis, nous retrouverons Nicolas Pido pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Le tribunal militaire du Burkina Faso a renvoyé au 6 octobre l'audience de mise en accusation de 107 personnes, dont deux généraux poursuivis dans le cadre du putsch manqué de septembre 2015, a-t-on appris vendredi de sources judiciaires. L'audience a été renvoyée afin de transmettre le dossier à tous les conseils et à ceux qui n'ont pas été avisés dans les délais, a déclaré Yacouba Traoré, un avocat de la défense à l'issue de l'audience à huis clos. Cette audience devrait permettre à la chambre de contrôle du tribunal militaire de vérifier la régularité de la procédure, annuler ou valider les charges et mettre en accusation les inculpés avant de les renvoyer pour jugement, a expliqué Christophe Birba, un autre avocat de la défense. En RCA, un député de Bria a alerté sur un risque de famine dans la localité. Les affrontements armés dans cette ville du centre-est ont provoqué la pénurie des denrées alimentaires. Freeman Sipila.
Ce sont plus de 40 000 personnes qui sont menacées par la famine à Bria. Les récurrents affrontements entre groupes armés n'ont pas permis le ravitaillement de la ville en produits de première nécessité. Les habitants, eux aussi, craignant pour leur vie, n'osent pas se rendre au champ. Pour Arsène Kongo, député de Bria, si rien n'est fait d'ici fin septembre, la ville va être complètement plongée dans l'insécurité alimentaire.
Tous les véhicules qui quittent Bangui pour Bria ne s'arrêtent qu'à Bambari. Et les produits de première nécessité manquent, par exemple le savon, le sel, le sucre. En plus de cela, une boîte de sardines que nous achetons ici à Bangui à 350 francs coûte 2000 francs. Il faudrait que le gouvernement pense très rapidement à envoyer les vivres au niveau de Bria. Si ça ne se fait pas, je crois que arrivé en fin septembre, vous allez comprendre que à Bria, les gens vont commencer à mourir à cause de la famine.
Alors que la situation sécuritaire reste volatile à Bria, où des groupes armés se regardent en chien de faïence. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement s'est tenu ce vendredi à Bangui. Le président Faustin Archange Touadéra a inscrit dans les priorités de cette nouvelle équipe la pacification du pays. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La coalition d'ONG Code Bleu accuse la mission de l'ONU en Centrafrique de simulacres d'enquête dans des affaires d'abus sexuels attribués à des casques bleus. Détaillant le cas d'une femme, Code Bleu déclare qu'aucun accusé n'a été condamné et que 8 des victimes n'ont pas été interrogées par les enquêteurs. La MINUSCA dit avoir pris des mesures strictes pour lutter contre ce problème. Elle reconnaît également que l'exploitation sexuelle et les cas d'abus sexuels ont sévèrement affecté la crédibilité et la réputation de la mission par le passé. Le porte-parole Vladimir Montero a indiqué que la mission va se pencher sur les allégations de Code Bleu. Ajoutons à propos de la RCA que le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, qui a intégré des membres des groupes armés, s'est tenu aujourd'hui à Bangui. Le pape ne se rendra pas à Kinshasa avant la tenue d'élections. Le nonce apostolique en RDC a dit hier que le Vatican veut éviter tout risque de manipulation et a dénoncé un état prédateur de son peuple. Génocide rwandais. Le Conseil constitutionnel français a jugé conforme une loi limitant l'accès aux archives des anciens présidents, premiers ministres et ministres. Cette décision vise surtout un chercheur voulant consulter les archives de l'Élysée sur le Rwanda. Le point avec Morgan Guiriec.
Le requérant, le chercheur François Granet, auteur d'ouvrages sur le Rwanda qui s'était vu refuser la consultation d'archives de la présidence française, reprochait à un article du Code du patrimoine de méconnaître plusieurs droits constitutionnels. Cet article accorde aux ex-membres de l'exécutif ou à leurs mandataires, dans les 25 années suivant leur décès, de garder une maîtrise totale sur la divulgation des documents qu'ils ont versés aux archives, et ce, sans aucun recours possible. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées sont justifiées par un motif d'intérêt général et qu'elles ne portent pas atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication. Le 7 avril 2015, la présidence française avait annoncé la déclassification de ses archives sur le Rwanda pour la période allant de 90 à 95. Un geste fort à l'occasion du 21e anniversaire du déclenchement du génocide rwandais le 7 avril 1994.
Toujours en rapport avec le Rwanda, la Grande-Bretagne fustige le harcèlement et l'arrestation des personnalités de l'opposition dans ce pays après la dernière présidentielle remportée haut la main par Paul Kagame. L'ambassadeur britannique à Kigali s'est dit inquiété. Au Togo, la commission des lois de l'Assemblée nationale a commencé aujourd'hui à examiner le projet de réforme constitutionnelle. La nouvelle version est censée introduire la limitation des mandats présidentiels. Les précisions avec Dili Diko.
Les travaux de la commission, composée de 9 députés, ont débuté ce matin à huis clos selon l'AFP. Les débats sont aussi ouverts aux autres députés non membres de la commission des lois. Les représentants du peuple étaient nombreux à avoir fait le déplacement, parmi eux, le leader de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, et 3 ministres. La commission devra ensuite remettre un rapport avant que l'ensemble des députés puissent examiner le texte en séance plénière. La semaine dernière, le gouvernement a adopté un avant-projet de loi pour répondre aux principales revendications de l'opposition. Ce texte propose un scrutin uninominal, majoritaire à 2 tours et une limitation des mandats. Le président sera élu pour un mandat renouvelable une fois. L'opposition dénonce cependant une tactique de diversion de la part du régime. L'avant-projet de loi n'étant pas rétroactif, le président fort Gnassingbé, qui en est à son 3e mandat, pourra se représenter aux 2 prochains scrutins. De nouvelles mobilisations sont prévues les 20 et 21 septembre pour réclamer le départ du chef de l'État.
Au Niger, un nouveau bilan de l'ONU indique qu'au moins 50 personnes sont mortes après des inondations provoquées par les pluies torrentielles qui s'abattent depuis juin sur ce pays désertique. Le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, qui réclame la sécession de cette région du sud-est du Nigeria, a été classé vendredi organisation terroriste par le ministère nigérian de la Défense après plusieurs jours d'affrontements avec les forces de sécurité et des tensions intercommunautaires. Ce mouvement fondé en 2013 s'est peu à peu métamorphosé pour devenir un défi sécuritaire, a déclaré dans un communiqué le porte-parole de la Défense, John Enenke. Toujours au Nigeria, la milice qui lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram aux côtés de l'armée dans le nord-est dit renoncer à ne plus recruter ni utiliser d'enfants. D'après l'ONU, la Civilian Joint Task Force a utilisé 228 enfants, dont certains de moins de 9 ans. Espoir de paix au Kasaï, les autorités de la République démocratique du Congo veulent voir un signe d'espoir avec le début du recensement des électeurs dans cette région troublée du centre du pays où la situation humanitaire est aussi fragile que la possibilité d'organiser des élections d'ici la fin de l'année. Plusieurs fois reporté officiellement pour des raisons sécuritaires, l'enregistrement des électeurs n'a commencé que mardi dernier dans les 2 provinces du Kasaï, alors que les autorités affirment avoir déjà enregistré 42 millions d'électeurs dans les 24 autres provinces du pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Condamnation dans le monde à la suite du nouveau tir de missile balistique de la Corée du Nord. Il a atteint une distance inédite en survolant le Japon. Il y a 5 jours, l'ONU a adopté une 8e série de sanctions internationales. Nathalie Barge.
Tout en condamnant le tir de Pyongyang, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé la tenue de discussions sur la crise à New York la semaine prochaine, tandis que le Conseil de sécurité a convoqué une réunion d'urgence cet après-midi. La Chine s'oppose à la violation par la Corée du Nord des résolutions du Conseil de sécurité et à son recours à la technologie de missiles balistiques pour des tirs, a déclaré la porte-parole des affaires étrangères chinoise, Hua Chunying, tout en estimant que les parties en présence devaient faire preuve de retenue. Moscou a également réagi. Nous condamnons fermement la poursuite de ces actes provocateurs qui mènent à une escalade des tensions, a souligné le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Les présidents russes et français Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont appelé à des négociations directes avec la Corée du Nord. Lors d'un entretien téléphonique, ils se sont montrés unis concernant le caractère inadmissible d'une poursuite de l'escalade, explique le Kremlin. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a appelé Pyongyang à cesser ses provocations imprudentes et à abandonner ses programmes d'armes nucléaires, tout en menaçant de nouvelles sanctions européennes.
Le président américain Donald Trump rencontrera lundi à New York le président français Emmanuel Macron et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour évoquer en particulier l'Iran. Le comportement déstabilisateur de l'Iran sera au cœur des discussions, a déclaré le général H.R. Manster, conseiller à la sécurité nationale, au moment où M. Trump laisse planer le doute sur l'avenir de l'accord nucléaire conclu entre les grandes puissances et Téhéran. Un attentat dans une station du métro londonien a fait 22 blessés. Un engin explosif artisanal a provoqué une énorme détonation et une boule de feu près de la station de métro de Parson Green dans le sud-ouest de Londres. Cet attentat n'a pas été revendiqué pour le moment. C'est le cinquième en 6 mois au Royaume-Uni. Le groupe État islamique a revendiqué cette vague d'attaques. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. La Salamité Co qui vous est présentée ce soir par Jacques Aristide.
La plupart des pays en développement, dont en Afrique, ont évité l'austérité entre 2011 et 2015, contrairement aux pays riches, mais font face désormais à de sérieux risques de dégradation de leur situation, d'après le rapport 2017 de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Plusieurs facteurs sont avancés, une hausse de l'endettement, une instabilité politique, la chute des prix de produits de base et l'appréciation du dollar notamment. Cette agence onusienne conclut que l'économie mondiale qui peine à décoller, a besoin d'un nouveau plan Marshall qui devrait s'inspirer de celui de 1947. Le cacao s'est inscrit en légère hausse sur les marchés internationaux ce vendredi. Après une récolte particulièrement abondante, les prix avaient plongé en octobre dernier et peinent désormais à trouver une direction forte. La récolte de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, est particulièrement observée. Elle s'annonce à nouveau élevée, mais moins que l'année précédente. Au Kenya, les recettes de l'État depuis juillet ont diminué de 29 milliards de shillings, soit 282 millions de dollars. Les investisseurs reportent leurs projets en raison de l'incertitude quant à la nouvelle présidentielle fixée au 17 octobre. Le gouvernement a réduit ses dépenses non essentielles, comme les voyages à l'étranger, pour financer ce scrutin.
Une musique qui ne trompe pas, Nicolas Pineau est là pour les sports. Nicolas Pineau, bonsoir.
Oui, bonsoir John, bonsoir à tous.
On va commencer par les demi-finales de l'Afro-Basket masculin 2017 à Tunis.
En effet, le Maroc affrontera la Tunisie, le pays organisateur, et le choc de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal-Nigeria. Le tenant du titre qui a dominé le Cameroun, sans surprise, 106 à 91 hier, le Sénégal lui a réussi à se débarrasser de l'Angola, 66 à 57.
En football, quart de finale de la Ligue africaine des champions.
Au Mozambique, le Ferroviário de Beira accueille l'USM Alger qui a démarré timidement le championnat algérien à Alexandrie dans une ambiance de feu à l'Ali qui reçoit l'Espérance sportive de Tunis. Dans le troisième quart de finale à Pretoria, le champion en titre, les Mamelodi Sundowns, auront fort affaire contre le Wydad de Casablanca. Enfin, à Alexandrie, Al-Ahly de Tripoli contre l'étoile sportive du Sahel.
On joue aussi dès ce soir en Coupe de la Confédération, Nicolas.
Oui, le Supersport United accueille dès ce soir le Zesco de Zambie, demi-finale finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions. Mazembe, champion 2016, se déplace au Soudan chez Al Hilal El Obeid. Et puis le choc à Rabat entre le FUS et le club sportif sfaxien. Et au stade du 5 juillet à Alger, le Mouloudia Club accueille les Tunisiens du club africain.
Et on termine par ce nouveau challenge pour Kolo Touré.
Et oui, après une dernière saison en Écosse au Celtic, l'Ivoirien, déjà entraîneur adjoint de l'équipe olympique de Côte d'Ivoire, vient d'être nommé assistant technique du Celtic de Glasgow.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui présenté par John Lyndon. Cap à présent au dossier du jour et on commence par le Mali où une nouvelle voie pour la sortie des crises s'est annoncée. Des organisations islamiques du pays ont lancé un appel au dialogue avec les djihadistes. Initiative de Mahamoud Diko, responsable du Haut Conseil islamique du Mali, qui a été mandaté pour négocier directement avec les groupes armés non signataires des accords de la paix. C'est une charge très lourde, a reconnu Mahamoud Diko. Il a été joint à Bamako par Bagassi Koura.
Je l'ai appris avec beaucoup de bonheur. Je sais aussi que c'est une charge redoutable, mais c'est un devoir citoyen pour moi, c'est un devoir aussi religieux de chercher vraiment à ce que la paix, la quiétude, c'est pour cela, je sais que c'est une charge très lourde, mais je ne peux pas me dérober. Je vais m'y mettre et je ferai tout ce qui est vraiment dans mon possible pour que ça soit une réalité, pour que vraiment notre pays qui n'a et vraiment, qui a vécu une souffrance qui n'a que trop duré, trouver une solution à cela. Et je ne peux pas prétendre le réussir seul. C'est ensemble, tous les enfants de ce pays, toutes les confessions religieuses réunies, ensemble, que nous puissions vraiment réussir ce challenge qui est vraiment de restaurer la paix et la quiétude dans notre pays.
Alors, vous allez négocier avec ces groupes non signataires de l'accord de paix, mais certains les appellent des groupes terroristes. Qu'est-ce que vous dites?
Ben moi, je ne sais pas. Certains, ça, c'est certains qui les appellent. Moi, je suis seulement commis pour essayer de parler avec tous les enfants du pays qui se reconnaissent dans la République. Maintenant, les gens peuvent avoir d'autres points de vue ou d'autres divergences, mais tant qu'ils acceptent vraiment le principe républicain de notre pays et que nous puissions parler pour avoir la paix, moi je pense qu'il faut parler avec eux.
Si on est arrivé là, c'est aussi peut-être le signe que cette crise ne peut pas être réglée seulement sur le plan militaire.
Mais aucune crise, aucun conflit n'a pu être réglé seulement que sur le plan militaire. Aucun. Dites-moi, dans l'histoire, quel est le conflit qui a pu vraiment se résoudre seulement sur le plan militaire? Il faut nécessairement prendre compte des autres, disons, réalités de cette crise. C'est vrai qu'elle a une dimension spirituelle. Donc, cette dimension-là, il faut l'intégrer et voir pourquoi les uns et les autres revendiquent de cette façon.
Alors, vous savez que les positions sur cette question du terrorisme sont très tranchées. Hein? À Bamako, certains disent qu'il ne faut jamais négocier avec Iag Gali. Comment vous comptez les convaincre?
Moi, on m'a jamais dit de négocier avec Iad ni quelqu'un d'autre. On m'a dit simplement de négocier avec les enfants de ce pays qui se reconnaissent dans la République. On ne m'a jamais dit spécifiquement qu'il faut aller négocier avec Iad. Personne ne m'a demandé ça.
Si vous avez l'occasion de discuter avec lui, vous allez le faire?
Si, je ne le ferai pas de moi-même. C'est l'État malien qui m'a commis, donc moi, je me limite à ce qui m'a été dit. Si une négociation doit être faite, c'est l'État qui décide de cela, ce n'est pas moi.
Mahamoud Diko, joint à Bamako par Bagassi Koura.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
N'Djamena rejette le rapport d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme au Tchad, intitulé « Entre répression et récession ». Cette ONG épingle le gouvernement tchadien qu'elle accuse de bâillonner le peuple, notamment les associations de la société civile. Au micro de notre correspondant sur place, André Kodmadjingar, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, chargé aussi des droits humains, a réfuté cette accusation. Suivez Ahmad Mahamad Hassan.
Écoutez, nous sommes surpris parce que j'ai reçu les membres d'Amnesty International qui étaient de passage en N'Djamena le mercredi dernier et ils m'avaient remis officiellement leur rapport. Franchement, le rapport n'allait pas être de ce contenu si on avait échangé avec Amnesty avant la rédaction même de ce rapport. Premièrement, le rapport ne souligne pas assez les efforts qui sont développés par le Tchad depuis ces dernières années en matière de consolidation de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Je trouve sincèrement que c'est pas assis sur des réalités. Ils n'avaient pas eu vraiment peut-être le temps nécessaire de bien vérifier pour mieux asseoir la crédibilité de leur affirmation.
En tant que citoyen tchadien, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut ouvertement critiquer le gouvernement tchadien aujourd'hui et ne pas être menacé d'une manière ou d'une autre par le pouvoir en place?
Il n'y a pas eu de législation, à ma connaissance, intentionnellement ou une politique planifié de la part des dirigeants du Tchad et de l'État tchadien pour pouvoir réprimer toute forme de contestation ou toute action des activistes des droits de l'homme et autres. Je crois que c'est très injuste.
Le rapport révèle que 65 associations sont interdites de manifester en 2 ans. Plus de 10 sites internet sont bloqués en 2016 et l'ANS, Agence nationale de sécurité, sévit plus que jamais. Monsieur le ministre, cela ne ressemble pas trop à un pays où il y a la liberté d'expression, non?
La législation dont ils font cas, c'est les arrêtés d'interdiction du ministère de l'Intérieur en matière de manifestation. Et ça, le ministre de la Sécurité publique ou le Tchad a pris ses décisions par rapport à un contexte sécuritaire très difficile. Le droit de manifester est reconnu par la Constitution tchadienne. C'est pas à Amnesty de nous le rappeler. Mais le problème, c'est que nous avons aussi des législations qui existent depuis 1960 quant à la question de l'autorisation préalable. C'est vrai, il y a eu la Conférence nationale souveraine, c'est vrai, il y a eu la Constitution de 1996, mais le problème, c'est que nous avons aussi des législations qui existent depuis 1960. Le ministre n'a fait que conformer à la législation existante qui est toujours en vigueur. Maintenant, est-ce qu'il y a un service dédié pour la sécurité et qui est aussi orienté pour la répression systématique des citoyens ou de toute forme de contestation? Ça, vraiment, on est à un point d'assimiler l'Agence nationale de sécurité, qui est une recommandation de la Conférence nationale souveraine de 1993 à la défunte DDS. Et ça, je trouve que c'est dommage. Et ça, il y a un déficit d'objectivité à ce niveau-là.
Pour terminer, monsieur le ministre, quelles sont les actions qui ont été réalisées ce dernier temps au Tchad, justement, pour favoriser le respect des droits de l'homme?
Nous avons connu beaucoup de progrès. Nous avons revisité notre législation pénale, notamment le code pénal qui vient d'être rendu public, promulgué par le chef de l'État. Nous avons supprimé la peine de mort. Nous avons eu beaucoup d'avancées. Les mécanismes de rapport entre les partis de l'opposition, de l'opposition et les membres de la société civile est aujourd'hui marqué par une approche de dialogue et de concertation permanente. Nous sommes ouverts pour toute forme de critique objective pouvant nous aider à reconnaître nous-mêmes nos limites.
Ahmad Mohamed Hassan, ministre tchadien de la Justice. Suite au remaniement ministériel en Centrafrique, la FIDH a publié ce vendredi un communiqué affichant ses inquiétudes quant à la nomination de 5 ministres appartenant aux ex-Séléka et anti-Balaka. Des mouvements accusés d'être à l'origine de graves violations des droits humains et encore actifs et armés dans certaines régions où ils contrôlent les ressources naturelles. Si l'ouverture politique peut contribuer à l'apaisement, elle ne doit en aucun cas entraver les poursuites à venir contre les instigateurs des crimes commis depuis de nombreuses années en Centrafrique, peut-on lire sur le communiqué publié conjointement avec la Ligue et l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme. Plus de précisions avec Martha Riggio, coordonnatrice de la FIDH en Centrafrique, joint par Nathalie Barche.
On n'a pas d'inquiétude particulière vis-à-vis les personnalités qui ont été nommées, mais vis-à-vis les mouvements et les milices qu'ils représentent. On croit forcément au dialogue politique, mais il y a vraiment pour nous des lignes rouges, c'est-à-dire ces lignes rouges sont la lutte contre l'impunité et la justice. Et vu qu'il s'agit des groupes qui ont vraiment et à la base de la crise 2013-2014 et qui sont toujours des acteurs principale des violences qui fut la RCA depuis le début de l'année, on s'inquiète de cette ouverture.
Vous rappelez à ce propos le fait de devoir mettre l'accent notamment sur la Cour pénale spéciale à Bangui.
Absolument, absolument. ça sera un peu l'indicateur de la direction que les gouvernements prennent avec aussi ces nominations. Ils doivent aller ensemble avec, d'un côté, des signaux très forts des groupes armés de leur volonté d'épée. Et un indicateur aussi sera, on espère, la baisse des violences dans les prochains mois. Et ça doit s'accompagner à des efforts véritables d'opérationnalisation de la DPS, la Cour pénale spéciale, qui va juger les crimes commis aussi par les groupes qui sont maintenant représentés au gouvernement. Du coup, ça reste la priorité pour nous dans les pays. Et pas vraiment y avoir la véritable réconciliation en justice.
Vous rappelez également dans votre communiqué l'importance du désarmement en Centrafrique.
Oui, ça reste une première étape des outils transitionnels. C'est un engagement des groupes armés aujourd'hui au gouvernement et ça reste un engagement fondamental en RCA aujourd'hui. La circulation des armes est très importante en RCA aujourd'hui.
En ce qui concerne la nomination de ces ministres, est-ce que vous craignez par là peut-être que la Cour spéciale soit un petit peu entravée justement par toutes ces nominations et qu'elle ne travaille pas, disons, dans la meilleure des intégrités ?
Non, c'est pas une crainte pour nous. La priorité reste vraiment les bons fonctionnements de la CPS. On est encore dans un état où il faut fournir les moyens à la CPS et au procureur spécial pour faire leur travail.
Martha Riggio, jointe par Nathalie Barge.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Congo-Brazzaville, les femmes ont réalisé une percée dans les postes électifs. Deux parmi elles dirigent pour la première fois les conseils départementaux. C'est le résultat d'une sensibilisation accrue autour d'une loi accordant 30% des places aux femmes sur les listes électorales. À Brazzaville, la correspondance d'Nguela Ngousso.
Avec 17 femmes élues députées, alors qu'elles n'étaient que 12 à la dernière législature, la participation des Congolaises dans le pôle de décision progresse. Marie-Thérèse Bouvet, élue au Sénat, estime que le combat pour les droits politiques de la femme congolaise est loin d'être terminé.
13 déjà c'est bon, parce qu'au départ on n'était que 12, là on vient d'ajouter 2, c'est bon. En tout cas on est assez satisfait. Le combat on l'a toujours mené, hein, le combat d'être représenté partout. On ne va pas baisser les bras, on continuera à mener le combat.
Deux femmes ont aujourd'hui pris la tête des conseils départementaux dans le pays, chose qui était impossible il y a encore quelques semaines. La ministre de la Promotion de la Femme, Nefer Inès Ingani, fait un constat mitigé.
Ici est de souligner que l'on enregistre une légère progression du nombre de femmes élues tant au Sénat, à l'Assemblée nationale qu'aux différents conseils départementaux et municipaux. Ces résultats, bien que positifs dans l'ensemble, montrent que de nombreux efforts restent encore à accomplir en vue d'une représentativité équilibrée hommes-femmes dans les instances de prise de décision, surtout dans le domaine électif, où le Congo occupe jusque-là la 172e place dans le classement mondial de l'Union interparlementaire.
Plutôt optimiste, Didier Clotaire-Boutindi, chef d'une association politique, appelle les femmes à se lever pour leurs droits.
Écoutez, mais si la loi donne 30% aux femmes, c'est même les femmes de se lever, de dire que non, nous, on doit respecter quand même la loi. Ah, donc, ils doivent aussi occuper leurs 30%. Donc, il ne faut plus attendre que ce soit les femmes qui ne parlaient pas hier. Il faut que les femmes parlent aujourd'hui. Hein, on a besoin de la voix de la femme. La femme doit parler. Hein, la femme doit prendre des décisions elle-même.
Analysons globalement le problème. Rock Eloge Nzobo, un activiste des droits politiques et civiques, indique que c'est tout le système électoral du pays qui n'avantage pas les femmes.
On ne peut pas régler le problème de la femme tant que, justement, nous n'allons pas sur des bases démocratiques bien définies. Il s'agit des nominations où on décide de qui on peut mettre à telle place. Parce que vous voyez, il y a les forts taux d'abstention. Et moi, je refuse toujours de voir la légitimité, hein, de ces élections. Et il n'y a pas amélioration tant que nous n'allons pas revoir les fondamentaux même des principes de la démocratie, des principes de processus électoral, que ce soit la question de découpage électoral, la question de listes électorales, et la question de la commission indépendante électorale. Toutes ces questions doivent être débattues. À ce moment-là, lorsque nous aurons des résultats, on pourra évaluer de manière objective, de manière concrète.
Avec 246 femmes élues dans les conseils, la participation féminine dans la sphère de décision commence à prendre corps au Congo. Nguela Ngousou, Brazzaville, VO Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Lionel Gaïma. Souleymane Tarawale était à la console. Présentation John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et voafrique.com. Bonsoir.